Cela a commencé par le départ d'Elon Musk du Doge, quoique prévu de longue date pour des raisons administratives. Ce départ faisait suite aussi à des rumeurs de mésentente, voire de confrontation entre Elon Musk et différents membres du cabinet présidentiel, comme Marco Rubio il y a quelques semaines, peut-être à propos de l'Ukraine. Pete Navarro, traité publiquement d'idiot bête comme un sac de briques, à cause des tarifs. Et Scott Bessent, plus récemment, probablement aussi à cause des droits de douane ou du budget, et avec lequel il aurait eu une altercation assez violente, d'où venait peut-être, d'après des médisants en tout cas, son cocard du jour du départ. Toutefois, ce jour-là, c'est encore le duo Trump-Musk de la campagne et des premiers mois qu'on a pu voir, apparemment complices, échangeant des compliments sur le travail fait et l'optimisme sur celui qui restait à faire. Puis est venue l'annonce du Big Beautiful Bill concernant le vote de la loi budgétaire au Congrès et la situation s'est rapidement tendue. Elon Musk n'a tenu que quelques jours avant d'exploser sur X en disant que ce projet était une honte, un scandale, une abomination et mènerait le pays à la faillite. Il est allé plus loin en entamant une action militante pour tenter de convaincre des membres du Congrès de ne pas voter la loi, brandissant sur X le slogan Kill the Bill. Mais la situation n'est pas restée au stade du désaccord politique sur une question somme toute technique, même si elle est fondamentale, et a pris hier un tour beaucoup plus personnel, avec des attaques virulentes de chaque côté, des accusations d'ingratitude sur le mode « qui t'a fait comte et toi qui t'a fait roi » entre Adalbert de la Marche et Hugues Capet, pour ceux qui connaissent, des menaces sur des questions d'influence, d'affaires, d'argent et d'affaires louches. La rupture apparaît désormais consommée et Musk, que l'on disait presque pressé d'abandonner la politique pour retourner s'occuper de ses entreprises, semble plus que jamais décidé à influer sur les affaires de l'État, parlant de la nécessité de fonder un nouveau parti politique et du fait que, contrairement à Trump, à qui il ne reste que 3 ans et demi de mandat, lui-même est encore là pour 40 ans. Venons-nous simplement d'assister à une engueulade entre amis ou déjà ex-amis? Ou un moment décisif de l'histoire politique et institutionnelle américaine et mondiale. Et pourquoi pas les deux? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, il est 21h44, nous sommes le 6 juin 2025, anniversaire du débarquement, le 81e, et nous sommes en présence de l'instable Léo Portal. Comment vas-tu mon cher Léo?
Et en plus j'avais pas mis mon micro, j'ai dit ça m'a pas très bien affiché, puisque je m'enlève maintenant plus, mais le 6 juin, c'est surtout...
9 jours avant le 15?
La fête nationale suédoise, mes amis.
Ah, je savais pas.
Le plus grand pays. Voilà.
D'accord. Mais c'est aussi 9 jours avant le 15 où se tiendra le congrès historionomique auquel vous pouvez vous joindre en suivant l'invitation qui est, je sais pas, c'est en
dans
description.
La description. Ouais, ouais.
D'accord.
Il reste une dizaine de places.
Cette émission est la grosse émission gratuite de la semaine. Je répondrai à vos questions, dont à la fin du live, et aux questions de nos chers souscripteurs dans le cadre du live privé qui suivra. Ce soir, donc, alors vous savez, la semaine dernière, j'avais parlé du fait que je parlerai nouveau rapport des États-Unis et de l'Europe. J'en reparlerai, je vais le garder au menu, mais forcément, on a dû changer de vignette et de sujet principal de l'émission en raison de ce qui s'est passé. Et en fait, pour être tout à fait franc, on a décidé du sujet de l'émission déjà il y a 2-3 jours. Et j'ai dit à la personne qui nous fait la vignette, j'ai dit ça sera Trump-Musk, la rupture, point d'interrogation. Et naturellement, ce matin, nous avons décidé d'enlever le point d'interrogation puisque ça y ressemble véritablement à une rupture politique naturellement extrêmement virulente. J'en ai rappelé un petit peu les termes. Ça a été quand même assez violent. D'abord, il y a eu en fait, c'était très intéressant parce qu'en fait, d'abord, c'est venu surtout du côté de Musk. On sentait que Trump l'aurait bien laissé ne rien dire dans son coin et a fini par réagir parce qu'il y était obligé. Mais Elon Musk, une fois qu'il a commencé à partir à dire qu'il pouvait pas se taire sur le budget, en quoi il montre encore une fois, on aime Musk ou on l'aime pas, mais qu'il y a une sincérité, je pense, de toute façon, dans son combat. Il est parti à la base sur X à cause de la sincérité de son combat sur ce qu'il estime nécessaire pour la civilisation et la liberté d'expression. Et là, clairement, il pense qu'il y a un danger sur le budget, donc il n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Il n'a pas pu s'empêcher d'en parler, mais ensuite, il est carrément entré en confrontation avec Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a publiquement. Alors, je pense qu'il avait dû lui dire un certain nombre de choses déjà en privé, que s'il s'est mis à les dire en public, c'est qu'il les avait déjà dit en privé, que ça lui avait paru sans effet. Je pense aussi que Donald Trump a été peut-être peu prolixe d'explications envers Musk sur la stratégie éventuelle qu'il poursuit, s'il poursuit une stratégie. Mais assez rapidement, donc Elon Musk s'est lancé en fait dans une dynamique directe de confrontation avec Donald Trump, puisqu'il ne s'agissait pas seulement d'attaquer le bill, mais d'attaquer Donald Trump personnellement en allant exhumer d'anciens tweets de Donald Trump, certains étant très anciens, remontant à 2012. Et des séries entières de tweets dans lesquels il expliquait que c'était un scandale de ne pas avoir un budget équilibré, que l'État américain dépensait beaucoup trop, que ça a mené l'État américain à la ruine, etc. Et en disant, je suis tout à fait d'accord, qu'est-ce qui est arrivé à ce type, etc. Et donc forcément, au bout d'un moment, Donald Trump ne pouvait pas ne pas répondre, donc des questions lui ont été posées, il a commencé à répondre de manière, semble-t-il, un peu gênée, en disant que apparemment Elon Musk n'était pas content, qu'il a été déçu, que c'était, etc. Et ensuite, c'est parti véritablement en cacahuète avec Elon Musk qui a commenté certains de ses posts en disant quelle ingratitude, en disant qu'il n'aurait pas gagné l'élection sans lui. Forcément, Donald Trump l'a mal pris en disant qu'il aurait gagné l'élection sans lui. Aujourd'hui, j'ai vu que Trump avait parlé de. Je crois qu'il avait. Il a dit ce matin sur. Il a parlé de médiocre Musk. De son côté, Elon Musk l'a accusé d'être dans le. Comment? Dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Donc, forcément, ça. Ce qui est quand même très lourd comme accusation. Et qui à un moment doit avoir des suites, parce que tu peux pas balancer un truc comme ça sans avoir absolument rien, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez dangereux. Donald Trump a également dit ce matin que si Elon Musk, en gros, voulait se retourner contre lui, il aurait dû le faire il y a plusieurs mois, et que son bill est extrêmement important. Et en fait, il y a une espèce de confrontation, parce qu'en fait le problème, c'est que cette loi budgétaire de Donald Trump, certes, elle maintient le pays sur la voie d'un déficit énorme et d'un endettement très fort. En fait, ce qu'essaie de faire Donald Trump, c'est de refaire ce qui avait déjà été la politique de Reagan, c'est-à-dire on baisse des impôts sur les classes moyennes et sur l'activité, en espérant que ça stimulera l'économie, donc la production et donc la croissance. Et que la croissance permettra de financer le déficit. En fait, c'est toujours une idée un petit peu de multiplicateur économique avec des baisses d'impôts et de la politique de l'offre, hein, tout simplement. Et simplement, ça pouvait marcher à l'époque de Ronald Reagan, notamment parce que l'État américain n'était pas si endetté que ça, et que malgré tout, comme je l'ai déjà expliqué dans une des précédentes émissions, le volume en soi de la dette américaine et du déficit finit par devenir problématique parce que ça absorbe une bonne partie de la croissance mondiale et il faut que l'économie américaine arrive toujours à emprunter ces sommes-là. Mais aussi et surtout, forcément, ça augmente la dette et la dette, si la dette est considérée comme un impôt futur, toujours pareil, si vous n'avez pas la croissance que vous espérez faire arriver, ben la dette sera quand même là, elle vous attendra. Et donc, en fait, c'est tout simplement qu'il y a deux écoles parce que, encore une fois, la dépense publique Il y a une partie hausse de dépenses publiques de Donald Trump, mais cette partie de hausse de dépenses publiques, même en tant que libéral, c'est difficile de la contester à partir du moment où c'est pour une bonne partie une dépense publique en matière d'armement, de défense, alors que le pays est dans une confrontation qui monte avec la Chine et avec un danger aussi avec la Russie, que j'ai maintes fois évoqué ici, que vous connaissez tous par cœur, et qui donc naturellement donne une forme de justification géostratégique à cette augmentation. Et donc l'essentiel de ce qui va augmenter en fait le déficit, c'est le fait que la baisse des impôts qui avait déjà été décidée par Donald Trump sera maintenue. Et en fait l'idée pour Donald Trump, c'est d'éviter que ces impôts soient augmentés. Il y a aussi une idée électoraliste du côté de Donald Trump qui est que, en gros, s'il laisserait augmenter les impôts alors que le but c'est de garantir le pouvoir d'achat de sa base, eh bien, il risque de se prendre une ramasse au mid-term. À ce moment-là, son deuxième mandat pourrait être quasiment terminé. Donc, comment dire? La loi budgétaire de Trump n'est pas totalement incohérente avec ce que font les républicains en général, et c'est cohérent avec la trajectoire générale de l'État fédéral américain. Bon, simplement, Elon Musk, lui, estime qu'il n'y a pas assez de coupes qui sont faites en même temps, et qu'en gros, pourquoi baisser les impôts, pourquoi pas, mais il faudrait aussi qu'il y ait des coupes très importantes de resserrement de l'État américain. Il reproche sans doute aussi à Donald Trump qu'un certain nombre de recommandations du Doge n'aient pas été suivies à la lettre et immédiatement. Donc on se retrouve forcément sur cette trajectoire de collision qui, encore une fois, représente d'une certaine manière deux ailes qui peut y avoir dans ce qu'a porté Trump au pouvoir, qui justement d'un côté l'aile Musk, on va dire sur la politique économique, c'est celle qui a, si vous voulez, en tout cas, c'est mon cas en grande partie, ce qui a donné l'impression qu'il pouvait y avoir chez Trump un petit peu, sans qu'il aille aussi loin, mais un petit peu de Milei, c'était le fait qu'il y ait Musk dedans, justement, et qu'il défendait assez ça. Bon, clairement, on ne va pas vers quelque chose comme ça. Je vais revenir sur ce que je pense qu'est la politique de Trump exactement. Ce qui est intéressant, c'est que cette rupture, moi, je ne la voyais pas venir aussitôt, très clairement. On en avait parlé, je parle un peu dans El César, hein, je fais une comparaison assez simple, que je ne suis pas le seul à avoir fait d'ailleurs, tellement c'est évident pour beaucoup de gens, puisqu'on a une figure, Elon Musk, qui est un entrepreneur très riche, mais qui ne peut pas être lui-même président des États-Unis parce qu'il n'est pas né américain, et qui s'occupe surtout de financer, mais bien au-delà d'un simple financement. Il a soutenu la campagne, il l'a défendue idéologiquement, donc il a véritablement aidé le succès de Donald Trump, et je pense qu'il a raison quand il dit que Trump n'aurait pas forcément été élu s'il n'avait pas été avec lui. Il y a vraiment ce côté, effectivement, triumvirat, c'est-à-dire une personnalité privée très puissante qui devient un soutien, un pilier de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau mouvement et qui favorise une mutation. Le genre de choses qu'on a vu effectivement avec les différents triumvirats à Rome et même avant ça avec des arrangements de personnes entre certains individus puissants. Donc le fait qu'un triumvirat finisse par claquer, c'est pas forcément nouveau. Je veux dire, ça pouvait être considéré comme étant une des issues possibles de ce conflit, notamment parce que dès le départ, il y avait une question. Hein, j'avais décrit le fait que le Doge, ça devenait un organisme de para-gouvernement, assimilable par exemple au Conseil des 10 à Venise, c'est-à-dire quelque chose qui se met à contrôler toute l'action du gouvernement, à remplacer certains organes traditionnels ou à les contourner, comme le Congrès par exemple, en voulant contrôler les dépenses. En fait, le Doge s'arroge d'une certaine manière le pouvoir du Congrès. Et avec ce système de surplomb, donc forcément, ça crée une question, c'est de savoir qui c'est qui dirige. Est-ce que c'est celui qui dirige le Doge ou est-ce qu'il ne tient que du président? Donc, il pouvait y avoir en soi, institutionnellement, si vous voulez, un ferment de lutte. Ensuite, forcément, il y avait deux égos énormes. Très honnêtement, j'ai eu un doute sur le fait que ça allait claquer entre eux juste avant juste après l'élection, en fait, puisqu'il y avait la possibilité que ça claque tout de suite, avec justement des histoires de pouvoir, la mise en place du Doge, etc. Et à partir du moment où tout ça s'est mis en place assez simplement, j'ai pensé très honnêtement que il n'y aurait pas de problème avant pour un bon moment, c'est-à-dire minimum avant jusqu'au midterms prochaine, puisque l'activité du Doge principalement est censée se terminer en juillet 2026. Donc déjà, ça a amené jusqu'à l'année prochaine. Et donc ensuite, les midterms, c'est à l'automne. Donc c'est juste après, hein, c'est au même moment. Et donc, que s'il y avait des mauvais résultats à ce moment-là, soit que le Doge était décevant, soit qu'il y avait un problème électoral, là, que ça sauterait. Par contre, que ça irait aussi vite sur la première loi budgétaire, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, pour une fois, les choses sont allées beaucoup plus vite que ce que je pensais et pas beaucoup plus lentement. Maintenant, donc, est-ce que c'est une rupture complète? On sait que Donald Trump est tout à fait capable de revenir en arrière sur ce genre de conflit. On l'a vu, en fait, avec ce qui s'était passé avec Zelensky. Et inversement, d'ailleurs, je trouve que ça éclaire rétrospectivement toute l'affaire avec Zelensky, parce que ça vous montre qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Donald Trump avait parlé comme ça de Zelensky, parce que Donald Trump détesterait Zelensky depuis des années, parce que Donald Trump serait pro-Poutine, etc. Et en fait, vous apercevez qu'il parle exactement de la même manière qu'Elon Musk, à partir du moment où Elon Musk le contredit en public, le cherche, et où ça coince. Donc la réalité, c'est que c'est la manière de fonctionner de Donald Trump, simplement, et que c'est pas parce que c'était spécialement Zelensky. Si c'est Musk, c'est la même. Maintenant, ce qu'on sait aussi de Donald Trump avec Zelensky, c'est que Donald Trump, à partir du moment où il obtient ce qu'il veut, ou alors où celui d'en face montre qu'il est prêt à aller dans son sens et à coopérer, il est tout à fait capable de revenir en arrière et d'oublier les choses qui se sont dites. Alors, il y a eu pas mal de choses raides qui ont été assez dites par Elon Musk, mais je pense que Donald Trump n'a pas forcément grand-chose à faire. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant que j'ai lu d'un type qui s'appelle Devon Erickson sur X, qui compare les deux psychologies et les manières de fonctionner de Donald Trump, et qui souligne que Elon Musk, donc bon, on le sait, c'est un autiste Asperger, mais qui est un ingénieur, qui travaille avec des ingénieurs, c'est-à-dire dans un milieu où on travaille sur la technologie, sur des projets qui doivent fonctionner, qui exigent une totale transparence et une totale franchise. Afin d'avoir les vraies données et de pouvoir faire des calculs et des corrections simples. Alors que Donald Trump, lui, est un promoteur new-yorkais habitué à utiliser des informations confidentielles, des bruits de couloir, des rumeurs, faire des pressions pour utiliser, par exemple, des informations sur la modification d'une loi fiscale ou d'un équivalent local du PLU, par exemple, pour faire ses opérations immobilières. Et donc, quelqu'un qui n'est pas habitué à dévoiler sa stratégie, même à beaucoup de ses plus proches collaborateurs. Et on l'a déjà vu, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à propos de la Russie, par exemple, où on voit qu'on est obligé d'essayer de deviner ce que cherche à faire Donald Trump, mais que nulle part, il s'est exprimé absolument clairement sur ce qu'il était en train de chercher à faire, notamment parce que comme il négocie, et que son but, c'est de mener une négociation à son avantage, il ne veut pas donner justement toutes les cartes qu'il a en main publiquement. Et donc, il dissimule à ses propres collaborateurs une bonne partie de ce qu'il veut faire. Et il compte sur le fait que ceux-ci sont des alliés loyaux ou des subordonnés obéissants pour pouvoir faire sa tambouille à son idée sans avoir à préciser à tout le monde et pour que ça fonctionne au mieux. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner avec un type comme Elon Musk qui, lui, pense qu'il a des problèmes à régler, des problèmes qui sont fondamentaux, en l'occurrence le problème de la dette. Et que pour les régler, il faut faire les choses de telle manière. Et donc, si Donald Trump n'a pas expliqué sa stratégie à Elon Musk, clairement, sa stratégie, ça peut être, bah, écoute, d'accord, tu m'as proposé de faire un certain nombre d'économies avec le Doge, mais je ne les fais pas toutes parce que, en refusant d'en faire certaines, je gagne des points politiques qui me permettent de faire tel calcul, d'obtenir tel avantage sur telle autre dépense, etc. Parce qu'il est obligé, mine de rien, d'avoir une vision globale de la direction du pays. Et ben, s'il n'explique pas tout ça à Musk, ben forcément il y a un problème de communication et ce qui crée une mésentente et finalement une blessure surtout de la part d'Elon Musk qui ne peut pas comprendre ce que décide de faire Donald Trump. Ce qui ne signifie pas forcément que la stratégie de Donald Trump serait juste. Et on peut aussi admettre, par exemple, que Donald Trump, malgré tout, s'est expliqué autant qu'il a pu à Elon Musk et qu'Elon Musk n'est toujours pas d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même un jeu comme ça sur cette mentalité des deux personnages. Après, naturellement, il y a aussi un problème fondamental qui est que la grande victoire de Donald Trump au mois de novembre dernier vient aussi du fait que se sont adjoints des électorats, le fameux électorat MAGA et de l'autre côté ce qu'on appelle les tech bros autour de et libertariens autour d'Elon Musk, qui sont fondamentalement des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, la même vision des choses. On l'a vu notamment par exemple sur l'immigration indienne, où il y a eu une mini-crise comme ça qui s'est vite résorbée il y a quelques mois, mais qui réapparaît cette fois-ci sous une autre forme et sur laquelle cette fois-ci Trump n'a pas voulu lâcher parce que Trump veut son budget, notamment parce que son budget, d'après lui, conditionnera sa capacité l'année prochaine à remporter les élections de mi-mandat ou pas. Et donc, ça conditionnera sa capacité à poursuivre ses objectifs. Donc, il y a quand même derrière, en plus de la rupture de personne, disons, une rupture aussi idéologique des deux volets du trumpisme, ou plutôt du trumpomusquisme, qui sont pas forcément compatibles et donc qui en viennent à se détacher. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il pourrait y avoir une sorte de retour en grâce rapide de collaboration et de faire comme si de rien n'était, parce que cette faille-là existe quand même. Et aussi et surtout, on a vu quand même apparaître le fait que je pense que cette crise démontre aussi le fait qu'Elon Musk n'est pas prêt, contrairement à ce qu'on pensait, à quitter la vie politique, et qu'il a même l'intention d'y rester dedans, et d'y rester longtemps. Parce que je pense qu'il s'est convaincu de cette formule qui est bien connue, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle, s'occupera de vous. Il était certain de ça, c'est déjà ça qui l'a poussé à soutenir Donald Trump à la base, et je pense qu'il va continuer à le faire, donc même s'il n'est plus dans le doge, ça renforce un petit peu l'idée qu'il va continuer à chercher à mener un rôle de premier plan. Il y a aussi le fait que s'il y avait un rabibochage, disons que je pense que du côté de Musk, il faudrait qu'il soit forcé, ce rabibochage, c'est-à-dire que par intérêt, il soit obligé de mettre de l'eau dans
Petit bug du côté de Philippe. Donc, on va attendre qu'il revienne. Voilà, ici on est toujours présent, n'est-ce pas? Donc, de mon côté, tout fonctionne. On va voir quand Philippe revient. Enfin, quand son internet revient plutôt. Donc, ouais, voilà. Musk a quand même balancé quelques trucs un peu chauds. Je crois qu'il a dit qu'il aurait dû. Que Biden... Je me demande s'il n'a pas dit que Biden aurait été mieux comme président. Ça, c'est quand même du lourd à balancer, je trouve. Philippe, tu es de
Oui.
retour.
Ah, d'accord. Ça a coupé longtemps?
1 minute.
D'accord. Oui, donc je disais, Elon Musk a aussi des intérêts matériels à revenir dans le jeu, ou à ne pas quitter le jeu en tout cas, et ou en tout cas, enfin, même sans quitter le jeu, des intérêts matériels qui vont le maintenir de toute façon proche des intérêts gouvernementaux, en particulier en matière militaire, puisque vous savez que d'ores et déjà, il a un contrat de 5 milliards de dollars qui avait été négocié en avril dernier, je crois que j'en avais parlé dans le bulletin, pour faire des envois avec le Starship de satellites militaires du Pentagone. Mais il y a aussi le lancement du Golden Dome de Donald Trump, qui doit servir à assurer la sécurité stratégique des États-Unis, dans lequel il a été annoncé que SpaceX probablement aurait un rôle très important et
Je crois qu'on va pas se mentir, il y a à nouveau un petit bug. Paul Rutter voulait une recette. Je sais pas trop quoi balancer moi comme recette. Le tuna melt. Le tuna melt est un excellent sandwich. Vous prenez du pain de mie, vous le toastez. Vous faites une préparation au thon dans un bol où vous prenez du thon, vous le crushez avec tout ce que vous pouvez. Vous allez effilocher des échalotes et de l'oignon rouge que vous allez mélanger avec de la mayonnaise et de la moutarde à l'ancienne dans ce thon. Éventuellement un petit peu d'huile d'olive si c'est trop sec. Je suis carrément de cela. C'est bon, Philippe est de retour. Encore une
Ça,
fois,
combien de temps ça a coupé?
40 secondes, je dirais.
Je comprends pas pourquoi ça n'a pas coupé pendant 3 ans et là, depuis en 2 émissions, on a des bon,
Faut tester ta
perturbations
connexion.
sur.
J'ai
Hein?
dit, il faut tester ta connexion. J'étais en train de leur faire la recette d'un sandwich, mais je continuerai plus tard.
Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, je disais que Musk serait maintenu dans les affaires américaines de premier plan, en tout cas. Comme ne serait-ce qu'avec son rôle militaire. Puis il y a d'autres choses aussi. Il y a l'expérimentation à grande échelle aux États-Unis des voitures avec conduite automatisée de Tesla. Donc, tout ceci fait que, et il y a ça, il y a l'augmentation des vols de Starship. Enfin, en gros, Elon Musk ne peut plus se permettre de reculer sur le plan politique. Donc, ça va rester une figure politique très importante, avec des intérêts convergents avec Donald Trump, dans la participation notamment à un certain nombre de projets, je disais, mais aussi avec ses problèmes de personnes et ses problèmes idéologiques fondamentaux. Et donc, je voulais refaire, justement, revenir au parallèle qu'on peut faire avec les triumvirats dans la Rome antique, qui, de la même manière, hein, je renvoie à Alice César encore une fois, marque le passage à l'absolutisme à Rome, c'est ça la mutation impériale, et le triumvirat ont été un élément de ça, de la modification institutionnelle. Et j'ai déjà eu dit ici, hein, j'ai fait une émission là-dessus, en expliquant à quel point le Doge était un élément de ça, du contournement des institutions américaines traditionnelles. Il y a d'autres éléments, hein, le renforcement du pouvoir présidentiel, exécutif unitaire, on le voit très clairement. Donald Trump est à fond dans la théorie de l'exécutif unitaire depuis qu'il est arrivé, avec son idée qu'il peut commander directement n'importe quelle agence fédérale, qu'il peut virer n'importe quel patron d'agence fédérale, même qu'il peut commander aux juges fédéraux. Hein, tout ça assez clairement est un marqueur de l'absolutisation. Elon Musk est une figure comparable, hein, une figure, j'ai déjà parlé, à celle de Crassus, hein, qui était l'homme le plus riche de son temps, et qui lui aussi avait un certain nombre d'intérêts et de participation dans l'économie de l'État romain, notamment en matière de fourniture d'esclaves. Donc les ruptures de relations comme ça entre, ou d'amitié politique, intéressé, on va dire, c'est quelque chose qui est assez cohérent dans ce modèle-là. La question, c'est qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire, est-ce que ça peut aller à une espèce de est-ce que ça va déboucher sur une espèce de guerre larvée où Musk va tolérer, on va dire, Donald Trump jusqu'à la fin de son mandat en disant que derrière, il mettra Vance à la place et que ça ira très bien? Ou est-ce que Musk va partir directement dans quelque chose de beaucoup plus brutal et tenter de pousser à diverses manœuvres politiques qui pourraient aller de la tentative de motivation d'un impeachment de Donald Trump, s'il insistait par exemple sur les Epstein Files ou d'autres choses comme ça. Ou bien il pourrait essayer de pousser aussi dans le sens de l'explosion du Parti républicain en essayant d'emporter des gens avec lui qui saperait également la présidence de Trump et peut-être les deux à la fois d'ailleurs c'est-à-dire impeachment et déchirer le Parti républicain pour mettre à sa place justement directement Vance, qui est une créature de Peter Thiel et quelqu'un qui est proche, dont la vision est proche de celle d'Elon Musk sur un certain nombre de points. Vance, d'ailleurs, qui est un petit peu le troisième membre et le membre junior, on va dire, du Triumvirat, qui est celui qui a pas osé, qui n'a rien dit jusqu'à maintenant. J'ai rien vu publiquement. Peut-être qu'il fait partie de ceux qui ont tenté de rabibocher les deux hommes, hein. Parce que maintenant, la question, c'est pas de savoir comment Trump fait la paix avec Poutine, c'est comment Trump fait la paix avec Musk. Hein. On ne s'y serait pas attendu encore il y a 2 semaines, mais c'est le cas maintenant. Donc je pense que Vance est plutôt dans ce type de rôle-là, d'essayer de recoller les morceaux, puisque Vance, assez clairement, est lui-même très à cheval sur les deux volants du trumpisme. Et donc voit la nécessité de les maintenir ensemble. Mais il y a aussi une autre chose qui pourrait se passer, c'est que actuellement, depuis en fait l'élection, il y a pratiquement plus de parti démocrate. Tout a l'air d'être parti à volo. Il y a plus d'opposition à Donald Trump. Les types sont complètement groggy et se cherchent des leaders. Or, c'est un des points d'ailleurs que j'abordais aussi dans Hail Caesars, c'est que assez clairement, le clivage politique américain est lui-même dans une phase de recomposition. Encore une fois, je renvoie à la comparaison que j'ai fait maintes fois entre Trump et les Gracques, avec l'idée qu'il y a eu un premier et qu'il y a un second Trump. Et tout ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en face du clan populiste, populares, autour de Donald Trump, il faut que le clan des optimates, qui était celui des démocrates, se reconstitue. Alors, ça se fera peut-être pas sous Trump, et même dans le César, je pensais plutôt que ça se ferait dans l'après-Trump. Mais ça peut aussi commencer à se faire maintenant, parce que si vous avez une figure comme celle d'Elon Musk, qui à la base, lui, était plutôt du côté démocrate, qui a laissé tomber les démocrates parce que il trouvait qu'ils allaient trop à gauche, trop dans le wokisme, etc. Et c'est pour ça qu'il est allé aider Donald Trump au Parti républicain. Mais il reste que Musk, au fond, ça reste un centriste, en fait. Et précisément, dans ce qu'il a dit hier sur Twitter, il a dit, sur X, il a dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait bien qu'on crée un nouveau parti, en gros, qui rassemble les 80% du milieu? En fait, du milieu du clivage politique, en fait. Hein. Donc, c'est un petit peu. C'est très giscardien, hein, finalement, avec l'idée des 2 Français sur 3. En fait, là, on serait sur l'idée des 4 Américains sur 5 à rassembler dans une espèce de grand parti. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, d'ores et déjà, Musk pourrait profiter du fait qu'à la fois, il a encore des attaches et qu'il y a des gens au Parti républicain qui sont contre Donald Trump ou qui sont sceptiques sur certaines évolutions qu'il y a eu ces derniers mois, mais aussi tirer parti du fait qu'il n'y a plus de leader en fait au Parti démocrate, hein, tout simplement, pour faire ce travail, c'est-à-dire former un nouveau parti qui s'opposerait à Donald Trump, qui deviendrait le nouveau parti d'opposition à Donald Trump et qui à ce moment-là accélérerait cette recomposition du clivage. Alors, dans quel sens? Dans Hail Caesar, je réfléchissais au fait que le second trumpisme serait probablement un trumpisme beaucoup plus de gauche, dans le sens où il y a un gros effort. À la base, le trumpisme, c'est grosso modo, ça a été par même commentateur, c'est un peu court, mais c'est l'idée, le parti des petits blancs, notamment des hommes blancs conservateurs américains. Bon, parti un peu réactionnaire, quoi. Comme le premier Grac, en fait. Et alors que ce que j'appelle le second Trump, celui-là, c'est celui qui a beaucoup progressé dans le vote, notamment des hommes hispano-américains, qui a progressé aussi dans le vote des Noirs, et donc qui s'est élargi et qui s'adresse à la nouvelle population. Et dans ce mouvement-là, ça ressemble à l'évolution du Gracisme, pour ainsi dire, avec le petit frère Caius Gracchus, qui s'est beaucoup plus ouvert aux populations alliées, etc., tout en devenant en même temps de plus en plus, pour ainsi dire, socialisant, quoi, en tout cas redistributif et démagogique. Et on peut considérer qu'il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce que lui reproche Musk, parce que sur la question du budget, finalement, celui qui est réactionnaire, c'est Elon Musk, celui qui veut qu'on revienne sur un certain nombre de dépenses, alors que celui qui continue sur la même pente, et sur la pente socialisante, en fait, c'est Donald Trump pour le coup. Donc, est-ce que ça ferait de Donald Trump la tête de pont encore, malgré tout, des populares, et de Elon Musk, le type qui essaierait de reprendre en main et de former finalement carrément ce parti des optimates qui réunirait non seulement une partie des élites démocrates, finalement, c'est-à-dire les riches, on sait que c'était que les riches votaient démocrates. Donc, ces élites-là, mais aussi peut-être une partie de la population blanche américaine libertarienne qui pourrait le suivre là-dedans, c'est une bonne question. À ce moment-là, on serait plutôt sur le rapport qu'il y a eu entre Marius et Sylla, hein, puisque Marius, c'était le plus vieux des deux déjà, et c'est avec eux véritablement que les partis finalement populares optimates se sont formés et qui ont un petit peu dicté la fin des mouvements ensuite avec Pompée, César, etc. Et les deux hommes travaillaient ensemble à la base et il y a eu une espèce de rupture, notamment pour des questions d'ego d'ailleurs, à la suite de la guerre contre Jugurtha. Ils avaient fini par se fâcher tous les deux parce que Marius, qui était vieillissant, estimait que Sylla était en train de l'éclipser un petit peu. Donc je pense que la rupture Trump-Musk peut avoir un effet assez fort de recomposition du clivage, d'accélération, encore une fois, on sera encore dans l'accélération, en fait, de la recomposition du clivage américain, et Musk pourrait surfer là-dessus et peut-être même, d'ailleurs, on va voir, mais s'il est vraiment persuadé qu'il y a une urgence, notamment sur les questions budgétaires et tout, ça pourrait aller, bon, d'abord, il pourrait pourrir éventuellement le budget de Donald Trump, mais aussi et surtout, peut-être qu'il pourrait essayer de créer de son parti, justement, et de s'engager là-dessus pour les élections aux midterms prochaines. Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que ça peut faire partie aussi de la dynamique. Voilà, c'est un petit peu la psychologie, mais d'Elon Musk, qui est que d'une certaine manière, il s'est dit avec Trump qu'il tenait le gars qui pourrait faire le boulot, que lui n'aurait donc pas à faire, ou sauf en partie. Et il est peut-être en train de se convaincre qu'en fait, si lui ne fait pas ce boulot-là, personne ne le fera, ce qui est encore différent. Et à ce moment-là, donc, il pourrait d'ailleurs, il l'a dit, hein, dans un de ses tweets hier, Elon Musk a dit qu'en gros, aux prochaines élections, il faudrait dégager tous ces gens. Et donc tous ces gens, c'est notamment les gens qui sont dans les républicains de Donald Trump qui seraient prêts à voter le budget de Donald Trump. Donc ça va quand même assez loin. Et pour moi, on est effectivement au-delà des mots, on est dans l'idée d'une confrontation politique à moyen terme entre les deux hommes. Véritablement quelque chose qui pourrait commencer à se construire. Alors on va voir assez rapidement dans les semaines, dans les mois qui viennent, si Elon Musk, on le voit, je pense qu'on entend parler, on entendra parler dans les médias, s'il commence à prendre des contacts, à réfléchir, à discuter sur cette question avec des gens, des responsables démocrates, etc., on aura une petite idée de ce qu'il cherche à faire et dans quelle mesure il essaie d'avancer dans cette direction-là. Il faudra voir aussi quelle sera la réaction de Donald Trump par rapport à lui, parce que s'il y a besoin de SpaceX, effectivement, en matière militaire, etc., vous savez, il y a Steve Bannon, alors qu'il n'y a plus trop d'influence auprès de Donald Trump maintenant, mais qui peut donner une idée, en tout cas, de ce que pense une partie de la frange MAGA, qui est qu'en gros, il faudrait que les États-Unis nationalisent SpaceX, quoi, pratiquement pour virer Elon Musk. Ça peut être le genre de coup qui peuvent se faire aussi. Et si la situation se dégradait, ça pourrait être amené aussi à des prémices de guerre civile, parce que vous vous rappellerez ce que je disais depuis quelques mois, à savoir que c'est pas parce qu'il n'y avait plus du tout de parti démocrate, pratiquement en face de Donald Trump aujourd'hui, que ça veut dire qu'il n'en aura plus. Il peut y avoir un parti démocrate qui est complètement en lambeaux, mais qui reviendrait finalement petit à petit, qui le tente de se restructurer. Et à ce moment-là, Elon Musk pourrait avoir un effet accélérateur sur cette restructuration, et ça pourrait encore une fois amener à des conflits et à quelque chose de beaucoup plus violent dans les mois qui viennent. À ce moment-là, ça aurait aussi un effet vraisemblablement stratégique, parce que sur la Russie de Poutine, sur la Chine, si les États-Unis commencent à se déchirer politiquement, mais quelque part on retomberait, vous savez, c'est ce même que j'ai partagé, c'est le même du bus scolaire qui est percuté par un train, en disant que c'est un peu l'impression que j'avais, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis peut-être cette fois ça va se passer mieux, et puis finalement le déterminisme historique vous revient à la gueule. Très honnêtement, je m'étais convaincu que cette fois-ci, ça pourrait se passer mieux. Finalement, il pourrait y avoir une transition en douceur, justement, entre cette alliance Trump-Musk qui n'avait pas pété au début et ça avait l'air au contraire de se mettre en place, donc c'était tant mieux. Et puis finalement, l'histoire revient sur les rails à une vitesse fulgurante. Tout nous pète dans le pif et on est obligé de constater la catastrophe. Donc je pense que voilà, on est face à une rupture de triumvirat. Je pense que la rupture est profonde. Je ne m'attends pas à un rabibochage réel et rapide. Au contraire, si je devais faire un pari aujourd'hui, je pense que Musk va partir dans l'autre direction, c'est-à-dire véritablement essayer de recomposer quelque chose. D'abord pour essayer de bloquer le bill, et ensuite éventuellement pour essayer de trouver un nouveau projet politique. Voilà sur la pure rupture Trump-Musk. Avant de parler du reste, je voudrais vous poser une question. Si vous restiez 4 ou 5 heures devant un artiste de rue, à la fin, vous lui donneriez combien? Je vous demande ça parce que chaque mois, près de 6 000 d'entre vous, c'est-à-dire le noyau dur des spectateurs, passe ce temps devant le contenu gratuit de la chaîne, mais ne fait pas partie des souscripteurs et ne fait jamais de dons en soutien. La publicité, comme je l'ai déjà dit, elle a rapporté le mois dernier l'équivalent de 5 centimes pour chacun d'entre vous. Si vous restiez 4 ou 5 heures devant un artiste de rue, est-ce que vous ne lui donneriez que 5 centimes? Il risquerait de ne plus jouer. Donc si vous aimez la chaîne, souscrivez ou même faites un petit don en dessous des paliers de souscription. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Votre soutien, c'est aussi votre intérêt pour la survie de la chaîne. J'ai déjà commencé à lancer cet appel la semaine dernière. Ça a bien marché. Je remercie. Il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés. On a gagné, je crois, une trentaine ou une quarantaine de souscripteurs, ce qui a fait passer le taux de ceux qui ne donnent jamais rien de 95% à 94,5%. Donc je pense qu'il y a encore une marge et un effort. Je vous remercie et je remercie à la fois ceux qui sont venus chercher les contreparties qu'on offre avec les paliers de souscription, mais je remercie aussi très fortement ceux qui se sont simplement dit qu'ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas avoir plus de contenu que ça, mais qui voulaient déjà remercier et donc nous donnent 1, 2, 3 euros. C'est vraiment gentil, ça nous encourage, ça nous permet de travailler et donc je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à nous soutenir si ce n'est pas encore le cas. Je voulais maintenant aborder ce que je voulais dire la semaine dernière, que j'ai pas pu dire pour cause d'autres actualités, mais ça me paraît quand même important. C'est la nouvelle. Alors l'idée c'était d'intituler l'émission L'Europe à la sauce américaine, parce que le département d'État américain a publié le 27 mai dernier sur son Substack, il y a un Substack du département d'État américain, un article qui donne en fait, qui est d'un auteur qui s'appelle Samuel Samson, qui est conseiller principal au Bureau pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail au sein du département d'État, mais c'est publié sur le Substack du département d'État, ça a été relayé je crois que c'était relayé sur X, me semble-t-il. En tout cas, c'est. Alors, je suis peut-être. Alors, ça a peut-être juste été publié sur Substack, mais enfin, c'est un document officiel donc, du département d'État américain, et ça présente ce qui serait la nouvelle stratégie du département d'État en Europe. Et ça fait suite un petit peu au discours qui avait été celui de J.D. Vance au sommet de Munich il y a quelques mois, et donc ça me paraît extrêmement important. Alors, je vais vous donner lecture de. C'est assez court. Mais ça me paraît important. Je pense que Léo va vous l'afficher en même temps à l'écran. Ce texte s'intitule « Le besoin d'alliés civilisationnels en Europe ». Alors je vous lis la traduction. Je suis avec la traduction Google, c'est le plus simple. La relation étroite entre les États-Unis et l'Europe transcende la proximité géographique et les politiques transactionnelles. Elle représente un lien unique forgé dans une culture commune, une foi, des liens familiaux, une assistance mutuelle en temps de conflit et surtout un héritage civilisationnel occidental partagé. Notre partenariat transatlantique s'appuie sur une riche tradition occidentale de droit naturel, d'éthique de la vertu et de souveraineté nationale. Cette tradition s'étend d'Athènes et de Rome en passant par le christianisme médiéval jusqu'à la common law anglaise et enfin jusqu'aux documents fondateurs de l'Amérique. Très intéressant, on retrouve des thèses qui sont assez similaires avec ce que disait par exemple Philippe Nemo dans Qu'est-ce que l'Occident, sur cette continuité, mais ils sont presque des lieux communs, hein, l'idée que c'est tout ce que l'Occident a en partage en fait. Je poursuis. L'affirmation révolutionnaire de la déclaration selon laquelle les hommes sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables fait écho à la pensée d'Aristote, de Thomas d'Aquin et d'autres figures européennes de poids qui reconnaissaient que tous les hommes possède des droits naturels qu'aucun gouvernement ne peut arbitrer ou nier. L'Amérique demeure redevable à l'Europe pour cet héritage intellectuel et culturel. Ce lien entre l'Europe et les États-Unis est aussi la raison pour laquelle nous exprimons notre franc-parler lorsque nous sommes en désaccord ou avons des inquiétudes. Et c'est pourquoi l'administration de Trump tire la sonnette d'alarme en Europe. Lors de son discours à la conférence de Munich sur la sécurité cette année, le vice-président Vance a clairement expliqué la raison. Citation. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Au lendemain de deux guerres mondiales dévastatrices, les nations européennes cherchaient à prévenir de futures catastrophes en créant des structures supranationales qui resserreraient les liens entre les nations et permettraient des échanges diplomatiques et économiques plus substantiels. Les partisans de ce nouvel ordre, parmi lesquels des partis chrétiens et pro-démocratie bien intentionnés, aspirait à une transformation radicale, un monde qui transcenderait les divisions nationales et religieuses pour inaugurer une ère de paix sans précédent. En surmontant les ancrages de la nation, de la culture et de la tradition, le libéralisme mondial promettait ce que Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire, l'innovation ultime de la vie politique. Aujourd'hui, cette promesse est en lambeaux. Ce qui perdure, c'est une campagne agressive contre la civilisation occidentale elle-même. Partout en Europe, les gouvernements ont instrumentalisé les institutions politiques contre leurs propres citoyens et contre notre patrimoine commun. Loin de renforcer les principes démocratiques, l'Europe est devenue un foyer de censure numérique, de migration massive, de restriction à la liberté religieuse et de nombreuses autres atteintes à l'autogouvernance démocratique. Alors ici, vous reconnaîtrez ce qui a été le discours de Vance, certes, mais qui était aussi le discours de Musk dans les mois qui ont précédé, à propos du Royaume-Uni, à propos de l'AFD en Allemagne, etc., assez clairement. Je reprends. Ces tendances inquiétantes n'ont fait que s'accentuer ces dernières années. Au Royaume-Uni, la police arrête des chrétiens comme Madame Smith Connor et Livia Tosici Bolt, pour avoir prié en silence devant des cliniques d'avortement. En 2023, plus de 12 000 citoyens britanniques ont été arrêtés pour des publications en ligne, notamment des commentaires critiques sur la crise migratoire en Europe, que les autorités ont jugé extrêmement offensants. En Allemagne, le gouvernement a mis en place des systèmes élaborés de surveillance et de censure des discours en ligne, sous couvert de lutte contre la désinformation et de prévention des délits. Lorsque des citoyens allemands expriment des inquiétudes légitimes quant aux conséquences économiques et sociales de la mondialisation ou critiquent des responsables politiques, ils risquent d'être condamnés à une amende, d'être qualifiés de radicaux, voire d'être perquisitionnés à leur domicile par les forces de l'ordre. La loi sur les services numériques de l'Union européenne, censée protéger les enfants des contenus en ligne préjudiciables, est au contraire utilisée pour faire taire les voix dissidentes par une modération de contenu orwellienne. Des régulateurs indépendants surveillent désormais les réseaux sociaux, y compris les grandes plateformes américaines comme X, et menacent d'amendes importantes le non-respect de leur stricte réglementation en matière de liberté d'expression. Ce contexte restreint également les élections européennes, comme l'a récemment souligné le secrétaire d'État Rubio. Le populaire parti Alternative für Deutschland vient d'être qualifié d'organisation extrémiste par les services de renseignement allemands, ce qui pourrait entraîner son exclusion du processus électoral. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle française, a été inculpée de détournement de fonds et, contrairement à la procédure habituelle, immédiatement interdite de se présenter. Des restrictions ont également été imposées en Pologne et en Roumanie à certains partis politiques ou responsables politiques. Parallèlement, des pays chrétiens comme la Hongrie sont injustement qualifiés d'autoritaristes et de pays qui violent les droits humains. Les Américains connaissent bien ces tactiques. Une stratégie similaire de censure, de diabolisation et d'instrumentalisation bureaucratique a d'ailleurs été utilisée contre le président Trump et ses partisans. Cela révèle que le projet libéral mondial ne favorise pas l'épanouissement de la démocratie. Au contraire, il piétine la démocratie et avec elle l'héritage occidental au nom d'une classe dirigeante décadente qui a peur de son propre peuple. Nos préoccupations ne sont pas partisanes, mais fondées sur des principes. La suppression de la liberté d'expression, la facilitation des migrations de masse, le ciblage de l'expression religieuse et l'affaiblissement du choix électoral menacent les fondements même du partenariat transatlantique. Une Europe qui renie ses racines spirituelles et culturelles, qui traite les valeurs traditionnelles comme de dangereuses reliques et qui centralise le pouvoir dans des institutions irresponsables, est une Europe moins capable de résister aux menaces extérieures et à la décadence intérieure. À cette fin, parvenir à la paix en Europe et dans le monde exige non pas un rejet de notre héritage culturel commun, mais un renouvellement de celui-ci. Le secrétaire Rubio a clairement indiqué que le département d'État agirait toujours dans l'intérêt national des États-Unis. Le recul démocratique de l'Europe n'affecte pas seulement les citoyens européens, mais affecte de plus en plus la sécurité et les liens économiques des États-Unis, ainsi que la liberté d'expression des citoyens et des entreprises américains. Nous espérons que l'Europe et les États-Unis pourront réaffirmer leur héritage occidental, et que les nations européennes cesseront d'instrumentaliser les gouvernements contre ceux qui cherchent à les défendre. Nous ne serons pas toujours d'accord sur la portée des tactiques, mais des actions concrètes des gouvernements européens pour garantir la protection de la liberté d'expression politique et religieuse, la sécurité des frontières et la tenue d'élections équitables constitueraient des avancées bienvenues. Les États-Unis restent attachés à un partenariat solide avec l'Europe et à une collaboration sur des objectifs communs de politique étrangère. Cependant, ce partenariat doit être fondé sur notre héritage commun plutôt que sur un conformisme mondialiste. Notre relation est trop importante, notre histoire trop précieuse et les enjeux internationaux trop importants pour permettre que ce partenariat soit mis à mal. Par conséquent, des deux côtés de l'Atlantique, nous devons préserver les richesses de notre culture commune en veillant à ce que la civilisation occidentale demeure une source de vertu, de liberté et d'épanouissement humain pour les générations futures. Merci d'avoir lu le département d'État américain. Abonnez-vous gratuitement pour recevoir de nouveaux articles et soutenir mon travail. C'est amusant. Donc, j'ai trouvé cet article très intéressant parce que il y a un vernis un petit peu officiel du fait que ça sort sur le département d'État. Ça s'appuie sur les déclarations de Vance, sur les déclarations de Rubio, et ça donne surtout l'idée de la mise en place d'une doctrine et d'une stratégie d'intervention en direction de l'Europe de la part des États-Unis. Ça systématise les idées qui avaient été lancées, je disais, à la fois par Musk, par Vance, ces derniers mois, et ça montre que ce n'était pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'il y a véritablement l'idée de faire idéologiquement de ça à la base de la relation avec l'Europe, et finalement, en fait, tout simplement, de poursuivre en Europe la transformation qu'ils ont déjà commencé à faire aux États-Unis. C'est-à-dire aussi et surtout, comme j'ai déjà dit, poursuivre l'establishment dans son refuge européen pour l'achever d'une certaine manière et faire triompher une espèce de vision occidentaliste du rapport euro-américain. Dans le contexte dans lequel je rappelle, depuis plusieurs mois, on est dans des négociations, notamment sur la question des tarifs entre l'Union européenne et les États-Unis, dans lesquelles la Chine essaie d'utiliser l'Europe comme troisième homme dans sa propre guerre tarifaire contre les États-Unis. La Chine essaie de faire naître finalement une espèce de solidarité eurasiatique entre l'Europe et elle-même contre les États-Unis. Et donc avec cette doctrine un petit peu organisée, on a une alternative présentée par le gouvernement des États-Unis avec l'idée de maintenir l'alliance transatlantique, mais sur des bases qui seraient plus proches idéologiquement de ce qu'elles sont aux États-Unis. Et ça envoie d'ailleurs aussi un message aux élites européennes sur la ligne qu'on attend d'elles, qu'elles adoptent désormais. Et ça va plus loin que ça. Alors, c'est très intéressant parce que il cite aussi le cas de Marine Le Pen chez nous, il cite le cas de l'Alternative for Deutschland. Il y a aussi, il semble en fait, que, il y a eu des rumeurs comme quoi Donald Trump a envoyé au Royaume-Uni, et peut-être aussi en Allemagne et peut-être en France, des équipes pour faire le point, alors soit pour s'informer sur le terrain, peut-être aussi pour s'informer localement auprès des partis qui s'estiment victimes de ces manœuvres-là, faire le point sur les questions de liberté d'expression, de fonctionnement démocratique, etc. Donc ça veut dire que ce texte, finalement, cette doctrine, n'est pas juste lettre morte. C'est-à-dire, d'ores et déjà, on voit, alors on avait déjà vu hein, d'autres discours publics qui avaient été donnés encore une fois par Musk ou Vance, mais là, qu'il y aurait un début d'action, d'intervention en Europe pour faire en sorte d'aligner ces pays-là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que bon, il y a le côté idéologique, naturellement, le côté rendre définitive l'évolution qui s'est faite aux États-Unis en faisant en sorte qu'elle soit faite dans tout l'Occident et qu'il n'y ait pas justement de forteresse finalement de citadelle de repli pour l'establishment, mais aussi c'est un moyen de s'assurer de l'unité euro-américaine au moment où il y a un double défi, le défi de la Russie et le défi de la Chine, c'est-à-dire le défi contre le bloc finalement. Et il s'agit finalement de construire comment dire, le corpus doctrinal idéologique qui devra animer cette guerre-là. Parce que toute guerre, finalement, est animée par avec un fondamental, il faut savoir pourquoi on se bat. Hein. Pendant la guerre contre le fascisme, il s'agissait de se battre contre le fascisme pour la démocratie et la liberté. Pendant la guerre froide, il s'agissait de se battre pour le droit de propriété individuelle, la liberté aussi, hein, puisque à travers le droit de propriété, le capitalisme contre le communisme, c'était encore contre le. Voilà. La dictature, mais enfin, c'était ça l'aspect que ça avait repris. Et là, on sera encore sur cette idée-là, mais en fait, il s'agirait de se battre pour les valeurs culturelles et civilisationnelles de l'Occident, précisément d'ailleurs comme des États qui eux-mêmes s'affirment comme étant des États-civilisations, que ce soit la Russie ou la Chine. Donc il y a une adaptation en vue du conflit justement géostratégique, une adaptation intellectuelle et une tentative de faire en sorte que l'Europe et les États-Unis restent ensemble, animé de cette nouvelle unité idéologique. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que il me semble que ça dépasse finalement les paroles en l'air, que ça envoie un message en direction des élites européennes ou des élites alternatives européennes. Ça peut être ça aussi, hein, puisque vraisemblablement, bon, j'en ai déjà parlé aussi, je ne vais pas en reparler ce soir, mais il y a un basculement qui est en train de se faire progressivement en Europe. Ça s'est encore fait finalement avec la défaite du parti de Donald Tusk à la présidentielle en Pologne. Donc c'est une situation qui avance petit à petit, la droitisation finalement. Et finalement, il s'agit pour les États-Unis d'accompagner ça et de mettre fin en fait à l'idéologie de l'establishment pour revenir à quelque chose alors à la fois qui est conservateur mais qui est surtout qui est en fait le conservatisme qu'il y a là-dedans c'est surtout et c'est d'ailleurs avoué d'après moi hein, un antimondialisme dans le sens où c'est finalement surtout une question identitaire, de culture sur le temps long, un peu en miroir de l'ennemi, mais au fond, on agit toujours comme ça hein, dans les guerres. Vous avez la Chine qui passe son temps à expliquer qu'elle a 5000 ans d'histoire de civilisation, que c'est une très vieille civilisation, qu'elle a une continuité, etc. Et donc, à travers ce récit qui ramène, qui explique la continuité depuis Athènes, Rome, l'Europe, les États-Unis, il y a aussi la volonté de, et en face de la Russie qui se présente comme bastion orthodoxe, etc., il y a un côté, il y a un côté choc des civilisations admis ou avancé, quoi, mais qui est décidé. C'est-à-dire en disant, en gros, voilà ce qu'on est comme civilisation, voilà ce qu'on va être ensemble. Et voilà quelle est notre volonté pour l'Europe. Donc ça me paraissait important de parler de ce texte parce que il va y avoir naturellement toujours une politique américaine en Europe dans les années qui viennent. Et je pense que ce texte résume très très bien le fil directeur de ce que seront les efforts américains en Europe sur cette période de temps. Que, encore une fois, que Trump reste garde la main ou bien que la main éventuellement passe à Elon Musk. On a vu qu'Elon Musk était tout à fait sur cette ligne-là aussi. Donc, quel que soit l'avenir de la politique interne américaine, je pense qu'on va rester sur un récit de ce genre. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir, mon cher Léo. Qu'avons-nous à voir avant de nous séparer?
Je ne finirai pas, malheureusement, la recette du tuna melt, mais il faudra bien que je finisse par faire une vidéo à ce sujet. On redirigera les gens. Écoute, on en est là. Alors, on souhaite la bienvenue à Tabidibu en tant que compagnon historionome.
Bienvenue.
On re-souhaite la bienvenue à Iruma, qui est revenu au niveau de frère historionome. On souhaite la bienvenue à Damien Lebihan, qui nous a rejoint comme frère historionome.
Bienvenue.
On remercie pour le référencement, pour son don.
Merci.
On remercie Catalin Antohé, qui a offert 50 souscriptions
Eh bien, merci
aux gens
beaucoup.
présents sur le chat. On remercie Lucho Pancho, qui a envoyé 5 souscriptions sur le chat. On
Merci.
remercie Florian Bourélis, qui a envoyé une souscription sur le chat. Iruma me l'a envoyé deux fois, mais parce qu'il en a offert deux. Ok. Donc on remercie Florian Bourlis qui a offert deux souscriptions sur le chat. Et enfin, on remercie Dave pour son don avec une question. L'Ukraine pourrait-elle dissuader la Russie sans armes nucléaires via des milliers de drones FPV armés, rendant l'invasion trop coûteuse?
Le truc, c'est qu'ils le font déjà de faire des milliers de drones et la Russie en fabrique aussi. S'il y avait on pourrait se poser la question si le conflit était figé à ce moment-là, qu'il y ait des stocks particuliers qui soient mis sur pied et que ça décourage totalement une nouvelle attaque. En revanche, tant que la guerre est plus ou moins à flux tendu, en fait, c'est-à-dire au fur et à mesure que la production est écoulée, hein, parce que les drones, ils sont écoulés de la même manière que le sont les obus, hein, finalement, ça paraît difficile de dissuader, surtout que, apparemment, les Russes sont en train de dépasser, les Ukrainiens, même en capacité de production de drones. La production ukrainienne, d'après Zelensky, d'ailleurs, a reçu un coup dur, puisque les Chinois cessent de fournir des composants ou diminuent, je ne sais plus, leur fourniture de composants pour drones à l'Ukraine, mais continuent ou accélèrent leur fourniture à la Russie. Donc il est vraisemblable que la Russie va encore accélérer dans cette direction-là. Donc dissuader sans armes nucléaires, non, je ne pense pas que ce soit possible à ce stade. La guerre conventionnelle est engagée et ça me paraît très très compliqué. Est-ce que l'OTAN, pour essayer d'augmenter très fortement sa production pour dissuader la Russie, ça serait peut-être possible. Mais on en est assez clairement pas encore là, puisqu'on a appris aujourd'hui, dans un article qui est paru, je sais plus, dans DSA, je crois, que les commandes que devait faire l'État français justement pour nourrir l'industrie militaire française et dans le cadre du réarmement voulu par Emmanuel Macron, eh bien qu'en fait ces commandes seraient au point mort parce qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Donc tout ceci est assez mal barré.
On a fini.
Eh bien écoute, c'est... Ah, petit message de Catalin, je vois.
Oui,
Catalin qui...
excuse-moi, je voulais le lire en plus parce qu'il l'a mis plusieurs fois. Il explique sa démarche, c'est que c'est si il offre ses souscriptions en espérant que ça puisse inspirer ceux qui ont eu leur souscription offerte ce soir. Et ce serait cool. Oui, ce serait cool pour Philippe, ce serait cool pour le travail. Et tout ça, j'ajoute qu'effectivement, ces souscriptions offertes donnent accès au Telegram. Et j'ai envie de dire, venez en profiter, parce que c'est pas non plus dit que ça reste à ce prix-là, encore très longtemps.
Et puis même si vous êtes timide pour vous exprimer, parce que puis que vous n'êtes pas sûr que vous allez rester, donc que vous n'avez pas envie de vous engager, au moins vous pouvez regarder les échanges, voir s'ils vous intéressent et si vous appréciez la qualité des différents canaux. Tu as déjà une idée. Je ne sais pas si tu as cité les gens
Non.
qui sont venus sur Tipeee. Faudrait peut-être le faire avant de.
Tous ceux qui sont sur Tipeee ce soir.
À ceux qui sont venus sur Tipeee ce soir, ah oui, parce que si on cite tous ceux qui. Oh, quoi qu'on pourrait le faire, hein. Je sais pas à quoi on s'était arrêté là.
On s'était arrêté à tout, non? On les avait cités, ce Tipeee?
La semaine dernière, je ne sais pas.
Je vais les citer, je vais les citer.
Je crois qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté. Commence au 2 juin en fait, parce que c'est après minuit, donc et du coup, je pense que c'est des gens qu'on n'a pas vus.
On souhaite la bienvenue à Arthur, on souhaite la bienvenue à Mathieu, on souhaite la bienvenue à Emmanuel, on souhaite la bienvenue à Julien, on souhaite la bienvenue à Erwan, on souhaite la bienvenue à Karim et à Hugo, on souhaite la bienvenue à Pierre-Yves, on souhaite la bienvenue à Romain, on souhaite la bienvenue à Yod, on souhaite la bienvenue à Bruno, on souhaite la bienvenue à Islamo, on souhaite la bienvenue à Lucas, on souhaite la bienvenue à Olivier, on souhaite la bienvenue à Johan ou Johannes. On souhaite la bienvenue à Roseline. On souhaite la bienvenue à Rida. On souhaite la bienvenue à Louis. On souhaite la bienvenue à Yann. On souhaite la bienvenue à Yann. On souhaite la bienvenue à Louis. On souhaite la bienvenue à Martin. On souhaite la bienvenue à Saphir. On souhaite la bienvenue à Bruno. On souhaite la bienvenue à Jordan. On souhaite la bienvenue à Brice. On souhaite la bienvenue à Gross. On souhaite la bienvenue à David. On souhaite la bienvenue à Seb. On souhaite la bienvenue à Michel. Michel E. Et enfin, ce soir, on souhaite la bienvenue à Jean-Luc, Gizmo, Vincent, François, Natacha et Jérémy. Merci
Merci à
beaucoup.
tous,
Ça
merci de nous avoir rejoints
nous fait
et
du
nous
bien.
saluerons les probables nouveaux venus pendant la rediffusion, ceux qui verront ce message et qui nous rejoindront aussi à l'occasion de la prochaine émission, je pense. Voilà. Merci, merci, merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui sont toujours là, qui partagent aussi, qui laissent un petit commentaire en référencement pour activer l'algorithme YouTube qui a toujours besoin d'être titillé. Je vous dis à tous à très bientôt, à tout de suite, hein, chers souscripteurs, et vous